Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question. Que révèle l'édition 2022 du Single Day, véritable laboratoire technologique du commerce? Le Double 11, c'est l'événement commercial le plus grand au monde avec des résultats supérieurs à ceux du Black Friday et du Cyber Monday réunis. Un événement à l'initiative du groupe chinois Alibaba. On en parle avec notre invité Paul Debilly, co-directeur général Alibaba France et notre expert d'Altavia. Vous êtes sur BFM Business. Soyez bienvenus.
Focus Retail, l'interview.
L'année passée, le Single Day a généré 543,3 milliards de yuan. C'est l'équivalent de 3,6 milliards de dollars. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Debilly. Bonjour.
Bonjour Noémie.
Vous êtes co-directeur général d'Alibaba France et à mes côtés également notre expert de la Chine cette semaine, Jean-Marc Ménien. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, Paul Debilly, le Single Day, c'est un événement mythique, si ce n'est le plus grand événement commercial de promotion au monde. Peut-être déjà, pour commencer, pour les novices qui nous regardent, peut-on donner une définition de ce qu'est le Double 11?
Oui, alors donc le Double 11 a été créé en 2009 par Alibaba. Au début, c'était un événement assez artisanal, hein, puisqu'on était sur 27 marques. Maintenant, c'est la 14e édition, 14 ans après, en 2022. Donc, c'est le 11 novembre, d'où Double 11. Mm-hmm. Et c'est plus de 290 000 marques dans le monde qui participent à cet événement-là, dont 40 000 marques internationales. Donc, c'est aussi un moyen pour les marques internationales d'adresser le marché chinois.
Et puis le 11, le chiffre 1, c'est vrai que c'est symbole de l'enfant unique et puis c'est aussi la fête des célibataires en Chine.
Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le 1-1-1, la fête des célibataires. C'était pour faire un pendant sur la Saint-Valentin. Et donc ils ont décidé pour cette journée-là de lancer un show retail sur cette période-là, qui en fait n'est pas que sur cette journée-là. C'est sur une journée un peu, ça a été préparé depuis longtemps par les marques, mais il y a des fenêtres particulières d'achat pour le
consommateur. On va y revenir. Alors le Single Day, c'est un laboratoire technologique mondial où sont testés la réalité virtuelle, augmentée, le live shopping, mais aussi des jeux type Pokémon Go en magasin. Cette année, ce sont deux influenceurs virtuels qui sont les stars de cet événement, Ayayi et Noah. Ils ont été créés par les ordinateurs du groupe Alibaba.
Alors, en fait, c'est vrai que la technologie, globalement, pour cet événement-là, est un moyen d'engager avec le consommateur. La plateforme Alibaba, c'est une plateforme qui n'est pas un intermédiaire entre le consommateur et les marques, mais qui est une plateforme qui délivre de la technologie et de l'innovation pour que les marques puissent s'engager avec leurs consommateurs au travers différents types d'évolutions, d'innovations. L'avatar, je crois d'ailleurs vous recevez une start-up juste après nous.
Exactement.
Qui va parler de ça. Donc l'avatar, le métaverse, le live streaming, qui est un sujet très important depuis déjà quelques années
en Chine. Très ancré en Chine.
Exactement. Pour créer cette immersion et cette expérience unique.
Alors vous l'avez dit, hein, le Single Day c'est le 11 novembre, mais on voit que cette opération s'éloigne un peu de son concept initial, Jean-Marc. 24 heures de méga promo, désormais on parle du Double 11 déjà depuis fin octobre. D'ailleurs les préventes ont commencé le 24 octobre, il n'y a plus de saison dans le retail.
Non, ça a commencé le 24 octobre et après il y a deux périodes, donc fin octobre jusqu'au 3 novembre et entre le 10 et le 11 novembre pour faire son acte d'achat.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement sur cet aspect technologique dont vous parliez, Noémie, c'est que ça a vraiment permis de digitaliser les régions en Chine. Et Alibaba a été très moteur dans ce sens-là, c'est-à-dire que à l'occasion de cette fête, et les Chinois ayant plus de mobiles que d'ordinateurs, ils ont très vite intégré que cette fête, elle était aussi pour eux, parce qu'on sait que la Chine, c'est des mégalopoles énormes, mais c'est aussi énormément de petits villages qui, petit à petit, ont appris à démocratiser, on va dire, la technique digitale via le mobile, l'achat et même la vente, puisque Alibaba faisait la promotion de cet événement pour qui veut vendre du fin fond de la Chine son petit panier en osier ou ses pousses de soja, parce qu'il est producteur de pousses de soja, à cette occasion pouvait le faire. Et je trouve que c'est vraiment cet effet rassembleur, social de cette fête et de la volonté d'Alibaba vraiment d'associer tout le monde qui est intéressante.
C'est vrai que d'ailleurs c'est un important travail logistique aussi, le single day pour livrer tous ces consommateurs qui la plupart veulent recevoir leurs commandes en un rien de temps. 12 minutes et 18 secondes pour le premier client chinois, c'était en 2017. 2 jours pour une livraison AliExpress, donc site e-commerce qui livre en France. Comment fait-on pour gérer cette logistique du dernier kilomètre ?
Qui est un enjeu clé. Donc pour AliExpress en France, en effet, on a développé un réseau du dernier kilomètre, des lockers par exemple dans des grandes surfaces ou de la livraison à domicile en fonction.
C'est casier, c'est ça, où on
exactement
peut recevoir des commandes.
Et vous pouvez choisir, vous d'ailleurs, je pense que c'est important que le consommateur choisisse où est-ce qu'il veut être livré, chez lui ou dans des casiers, sachant qu'être livré dans des casiers, c'est toujours mieux pour la planète et pour l'écologie, parce que du coup, vous évitez le dernier kilomètre qui a un impact important sur le carbone. Donc je pense que ça, c'est clé de le faire remarquer. Et d'ailleurs, en Chine, sur tout ce qui est livraison, on a développé 130 000 points au travers de la Chine où vous pouvez, vous, en tant que consommateur, ramener les cartons pour qu'ils soient recyclés. Donc je pense que c'est aussi un enjeu majeur de voir comment est-ce que la logistique trouve des solutions pour s'adapter aux contraintes de l'impact carbone.
Oui, d'ailleurs, le festival coïncide cette année avec la COP27 qui a lieu en ce moment même à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et vous, vous abordez donc toute cette dimension RSE, cette transition écologique.
Oui, le sujet RSE pour Alibaba est clé. Mais même en Asie, en Chine, le consommateur chinois, on appelle la fameuse génération Z, celle qui a à peu près 20 ans actuellement, est très consciente de ces enjeux-là. Et la technologie et l'innovation, en collaboration avec les marques, et sur la partie technologique aussi, permet d'avoir un impact positif sur diminuer l'impact carbone. La technologie, par exemple, cet événement qui est essentiellement digital, Alibaba Cloud, a des data centers qui sont fournis en énergie renouvelable. Donc ça, c'est très important aussi.
Et 90% des consommateurs, justement, en Asie, sont prêts à payer plus pour des produits durables. Jean-Marc.
J'avais une question, justement, à ce niveau-là, parce qu'on voit que le Double 11, bon, il y a eu la crise sanitaire, donc ça a calmé, on va dire, pas mal d'effets festifs qui étaient associés à cet événement. Mais cette année, on est, pour un mot qui est pas mal à la mode, dans la sobriété. Donc, est-ce que c'est aussi par rapport à cette évolution, je suis totalement d'accord, de la Gen Z et des jeunes qui, par cliché, étaient hyper digitalisés tout le temps le nez sur leur smartphone. On s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus à la recherche d'authenticité, ils reviennent vers plus de naturalité. Est-ce que ça explique aussi justement cette sobriété qui semble transparaître au travers de l'événement 2022?
Oui, et c'est une tendance d'ailleurs de consommation qui est vers plus de sobriété, s'orienter. D'ailleurs, on a aussi nous un rôle à Alibaba pour éduquer le consommateur, éduquer le consommateur chinois. On a développé un label avec les marques qui permet d'orienter sur les produits qui sont plus écologiques. Et donc tout ça, c'est une tendance qui est lourde, qui est une tendance de fond et qui est très importante. Ouais.
Et qui remplace allègrement les grands shows qui faisaient...
Oui, parce que donc, ça a commencé il y a 14 ans et il y a une vraie évolution. Au début, c'était donc assez intimiste. Après, c'est devenu des grands shows, du spectacle. Maintenant, c'est de plus en plus dans... On recherche la fidélisation, les marques recherchent la fidélisation entre le consommateur et la marque. Et donc, nous, on fournit des technologies pour que les marques puissent adresser au mieux les consommateurs en fonction de leurs besoins et avoir leur retour. Les programmes de fidélisation sur Alibaba, c'est 25 millions de personnes qui consomment à peu près 8000 euros par an sur Alibaba. Donc c'est quand même un consommateur assez qualifié.
En Chine, c'est énorme.
Exactement. Le programme s'appelle 88 VIP. Mm-hmm. Et donc 40 marques ont plus de 10 millions de membres. Et avec leurs membres, ils créent une vraie communauté et ils ont des retours sur leurs produits. Des tests, est-ce que les produits marchent ou pas, quelles sont les attentes des consommateurs. Donc ça, c'est très important d'avoir ces allers-retours et ces échanges entre la marque et le consommateur.
Paul Dubilly, oui.
Je crois que, justement, c'est la force d'Alibaba, c'est que vous êtes beaucoup plus transparent sur les datas, sur de même proposer aux marques de pouvoir faire leur CRM. Il y a certains concurrents dans le monde qui ne le proposent pas et je trouve que c'est vraiment spécifique à Alibaba, cette mise en place d'outils de relation client entre la marque et le consommateur.
Oui, parce qu'encore une fois, on est une plateforme. Donc nous, notre métier, c'est de gérer un écosystème et de créer l'engagement entre la marque et le consommateur pour que la marque adresse directement le consommateur, non pas au travers nous, mais directement. Ouais.
Justement, vous parlez des consommateurs, Paul de Billy. C'est vrai que la Chine a toujours été aussi au sommet de la contrefaçon. D'ailleurs, AliExpress et WeChat ont été placés pour la première fois cette année sur la liste noire américaine des marchés réputés pour vendre des produits contrefaits. Alibaba est régulièrement pointé du doigt. Quel est votre dispositif de lutte contre les fraudes, la contrefaçon? Est-ce que vous engagez assez de poursuites judiciaires?
C'est un enjeu qui est clé pour nous, parce qu'on crée la confiance entre les marques et le consommateur. Donc c'est clé, un, pour les marques, et deux, pour le consommateur. Donc Alibaba doit être le mieux disant sur ce sujet-là. Et AliExpress et toutes les plateformes Alibaba sont engagées justement pour traiter ce sujet, qui est compliqué, qui est un challenge important, parce que quand vous avez beaucoup de produits et beaucoup de marques qui vendent sur plateforme, la masse est compliquée. Mais on a développé des solutions technologiques qui permettent de retirer 98% des produits qui ne devraient pas être sur la marque, sur la place de marché, sont retirés avant d'être visibles par les consommateurs. Donc on a développé des technologies qui permettent justement de limiter ça le plus possible.
Oui, d'autant plus quand vous êtes en direct avec la marque, vous pouvez contrôler, mais quand vous êtes avec des vendeurs tiers, c'est beaucoup plus difficile, j'imagine.
Ouais, c'est le business de la marketplace qui est plus compliqué que quand vous gérez tout et que vous intéressez à l'heure, que vous achetez et que vous vendez. Nous, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais on fait le maximum pour justement
contrôler
ouais, au mieux.
Voilà, plus de contrôle. Merci beaucoup, Paul de Billy. Je rappelle que vous êtes co-directeur général Alibaba France. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jacquot.
Focus Retail, le journal du retail.
C'est l'une des annonces du plan stratégique Carrefour 2026 annoncé par Alexandre Bompard cette semaine. L'enseigne discount de Carrefour Atacadão arrive en France, Eva.
Oui, Atacadão, ce sont des magasins sous forme d'entrepôts qui proposent des produits sur des palettes et à même les cartons d'emballage. On y achète en gros et plus on achète, moins c'est cher. Alors, ce nouveau magasin arrivera donc en Île-de-France en septembre prochain. Selon le patron de Carrefour, Atacadão offre des offres concrètes, des réponses concrètes aux enjeux du pouvoir d'achat et connaît un succès important. En effet, le groupe Carrefour a réalisé 24% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022 avec la marque. Le groupe prévoit d'ailleurs 20 à 30 nouveaux magasins d'ici à 2026.
Voilà, Atacadão, il faut le dire, à la brésilienne. Autre actu, l'enseigne Camaïeu a fermé ses portes en octobre dernier suite à sa liquidation judiciaire, mais il restait des stocks à écouler. Et c'est l'enseigne Neuss qui a remporté donc cette vente aux enchères.
Oui, exactement. La chaîne de magasins de déstockage Neuss vient d'acquérir la quasi-totalité du stock de Camaïeu pour près de 4 millions d'euros. Le montant de la vente sera réparti entre les créanciers de Camaïeu, le remboursement des propriétaires des locaux des magasins, ainsi que la prime de 6 000 euros destinée aux employés de l'enseigne. Alors au total, c'est plus d'un million d'articles qui ont été vendus pour une valeur de 50 millions d'euros, en valeur du prix de vente en magasin, bien sûr. Alors pour Neuss, c'est tout de même une sacrée opportunité. L'enseigne rencontrait des difficultés ces dernières semaines et a fermé d'ailleurs une trentaine de magasins. Ces nouveaux produits Camaïeu pourraient aussi aider Neuss en proie à des manques d'approvisionnement à remplir ces magasins.
Et on passe à l'univers du luxe. Louis Vuitton ouvre prochainement un nouveau lieu hybride à Paris, LV Dream. Pour cela, la maison a collaboré avec de nombreux artistes, chefs cuisiniers, designers, encore couturiers. De quoi s'agit-il exactement, Eva ?
Oui, alors ce concept store, LV Dream, il ouvrira ses portes mercredi prochain pour un an, rue du Pont-Neuf à Paris. C'est un projet culturel qui mêle art, luxe, mode et gastronomie pour faire revivre les collaborations artistiques de la marque. Alors il s'agit d'un lieu hybride qui réunit des espaces d'exposition, une boutique et un café. 9 salles au total proposeront des expériences immersives et interactives. LV Dream sera également un café et une chocolaterie maximale. Maxime Frédéric at Louis Vuitton, une nouvelle adresse donc en collaboration avec le Cheval Blanc Paris.
Et puis dernière actualité, le groupe de distribution britannique Tesco étend son concept Get Go au Royaume-Uni.
Oui, le distributeur britannique ouvre 3 nouveaux points de vente intitulés Get Go, 2 à Londres et 1 à Birmingham. Alors, en test depuis un an, ce nouveau magasin permet de faire ses courses sans effectuer le moindre geste, un petit peu comme les magasins Amazon Go. Alors, comment ça marche? Il suffit de télécharger l'application Tesco, de choisir l'option Get Go et de payer sur l'application directement en sortant. Et c'est grâce à un partenariat avec Trigo, des caméras et des capteurs de poids permettent permet d'analyser ce que les clients mettent dans leur chariot ou ce qu'ils retirent et permet de payer via l'application. Tesco poursuit donc son test, mais de manière hybride, car le client a le droit, a le choix entre l'application et un système d'encaissement classique en magasin.
Merci Eva. Tout de suite, le Focus avec Jean-Marc.
Focus Retail, le Focus.
Et on retrouve notre expert de la Chine cette semaine, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Il n'y a plus de saison dans le retail entre Black Friday, les soldes, le Prime Day, les périodes s'enchaînent. Les consommateurs bénéficient de promotions étalées, et cela tout au long de l'année. Même le Single Day, qui pourtant porte bien son nom, le 11-11, le 11 novembre, commence bien avant l'heure.
Oui, on l'a vu avec Paul de Billy, mais il y a des raisons à cela. Mais c'est vrai que toutes ces fêtes qu'on appelait avant les One Day promos, c'est-à-dire ça commençait à 0h00 et ça finissait à 23h59, sont en train de sortir. Ah oui, c'était très précis. C'était vraiment dans la première minute ouverture à 0h00. Je crois que le premier milliard de dollars était fait en moins de 5 minutes. C'est vraiment incroyable. Et il faut avoir la technologie et la possibilité d'absorber toute cette capacité. Mais en fait, on voit que ces événements sont un petit peu en train de sortir de leur origine, on va dire, du One Day promo pour étaler dans le temps. Alors, plusieurs raisons à cela. C'est vrai que quand on arrive avec cette masse gérée sur seulement 24 heures ou 48 heures, ça n'est pas bon pour la planète. Il vaut mieux effectivement étaler dans le temps. Donc, on le voit, Double Eleven a commencé pratiquement début octobre. JD.com également. Aux États-Unis aussi, Walmart a commencé dès début octobre, le Black Friday. Donc, ce n'est pas spécifique au One Day promo Single Day d'Alibaba. Mais c'est en général ces choses-là.
Comment on explique qu'il n'y a plus de période de solde, de promotion, et est-ce que le porte-monnaie du consommateur, lui, ressort gagnant?
On saura exactement dans quelques années, mais c'est vrai que la promo est permanente sur Internet. D'ailleurs, on le voit, les valeurs initiales, les valeurs faciales des réductions baissent. Avant, un single day Alibaba ou une grosse promotion lors du Black Friday, c'était des moins 50, moins 70% de réduction. Alors qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans des moins 40, des moins 20.
Des promotions moins importantes.
Des promotions moins importantes, on tire dans le temps. Elles répondent par contre, je pense, à une attente des foyers, notamment cette période d'inflation qui est d'essayer de lisser dans le temps les dépenses pour Noël, donc commencer les achats plus tôt, désaisonnaliser, ce qui arrange aussi les retailers pour la gestion justement de la logistique et des stocks derrière.
Exactement, qui s'est accentué avec la crise économique et puis
tout à fait, le Covid. Tout à fait. Et le Covid.
Résultat, on peut faire de bonnes affaires tout au long de l'année. Merci.
On peut faire de bonnes affaires tout au long de l'année. C'est la fête permanente. Voilà. C'est plus One Day promo, c'est One Year's promo.
Voilà. Résultat, faites vos achats maintenant. Merci Jean-Marc. On passe tout de suite à la start-up de la semaine, une fabrique d'ambassadeurs virtuels.
Focus Retail, le pitch.
Nous voici désormais dans l'ère de l'influence virtuelle. Muriel Balaillard, bonjour.
Bonjour Noémie.
Vous êtes présidente fondatrice de Call Me Iconic et toujours avec nous Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shopperman. Muriel, vous avez créé une fabrique de super-héros numériques, une solution alternative aux influenceurs. Alors comment façonne-t-on ce genre de personnage?
Alors pour vous répondre, d'abord c'est partir d'un constat que les marques sur les réseaux sociaux. Les marques qui sont silencieuses, elles vont mourir. Et les marques, effectivement, qui vont faire entendre leur voix vont rester, dans l'esprit des consommateurs. Et donc, Call Me Iconic, la fabrique des super-héros numériques, c'est justement de donner une voix à ces marques sur les réseaux sociaux. Et donc, nous concevons, nous produisons et nous développons des personnages numériques pour faire entendre ces voix. Et ce qu'on veut surtout, c'est faire entendre des voix qui soient des voix positives, donc qui vont parler avant tout des engagements de marque.
Donc, votre solution, c'est du B2B. Quel est l'avantage de l'influence virtuelle pour les marques?
Alors, l'avantage de l'influence virtuelle, elle peut s'exprimer sur différents enjeux. Celui, effectivement, de la jeunesse éternelle, celui de la présence et de la disponibilité, celui surtout, je dirais, de faire ce qu'un humain ne peut pas faire tout seul. Un président, aujourd'hui, peut prendre la parole, il aura une durée de vie, d'entrepreneur ou de patron. L'influenceur virtuel, il aura une vie éternelle, un peu comme nos héros de nos séries ou nos dessins animés préférés. Donc ça donne un capital je dirais, pérenne à la marque.
Et puis, on imagine qu'un ambassadeur numérique, ça fait aussi moins de caprices qu'une influenceuse.
Alors, on va surtout maîtriser et contrôler le discours de ces influenceurs numériques, sachant quand même qu'il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qu'on appelle des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire un personnage qui est lancé pour une marque et par une marque, et donc il va répondre à des critères, je dirais, de personnalisation et d'identitaire de la marque. Et puis il y a ce qu'on appelle en fait les personnages de fiction, les influenceurs virtuels, qui eux sont amenés à collaborer avec plusieurs marques. Et donc chez Call Me Iconic, on a ces deux activités, celui effectivement de travailler sur des personnages de marque sur mesure, et celui de travailler sur des personnages médias à impact positif.
Alors, ce personnage fictif peut prendre plusieurs formes, humanoïdes, animaux, objets. Quel est le type d'ambassadeur numérique qui plaît le plus aux marques ?
Alors, on va dire que les marques tendent aujourd'hui à aller sur ce qu'on appelle l'hyper-réaliste ou le méta-humain. Ce sont des technologies qui coûtent plus ou moins cher, qui sont plus ou moins accessibles. Je dirais, les grands faiseurs sont, on l'a vu, Alibaba. Alibaba, au moment des JO de Pékin et avec le Comité international olympique, ont lancé Dong Dong, la première influenceuse virtuelle. Et derrière, ce sont des très gros moyens, puisque c'est tout le service du cloud et d'intelligence artificielle du groupe Alibaba qui est derrière. Ça veut dire que travailler sur des méta-humains, c'est de l'expression faciale, c'est de la capture de mouvement, mais ça va bien au-delà de cela avec les émotions. Donc il y a très peu, effectivement, ce type de personnage est très peu accessible. Et on a ce qu'on appelle ensuite l'humanoïde, plutôt, je dirais, comme Lille Michela, que vous connaissez aussi, c'est-à-dire que vous avez souvent le corps d'une mannequin et c'est la tête qui est en 3D.
Jean-Marc nous reparlera tout à l'heure. Et en juin dernier, vous avez lancé le premier influenceur virtuel à impact positif. Ça veut dire quoi ?
Exactement. Eh bien, nous avons lancé avec Call Me Iconic, c'est déjà Mi 440. C'est un personnage qui est parti d'un constat que les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire sur les jeunes générations. Et si on pouvait créer une voix positive, un impact positif ? Alors, on s'est interrogé en disant quelles étaient les valeurs positives. Eh bien, c'est bien les valeurs, je dirais, de la vie. Et les valeurs de la vie sont souvent effectivement transmises par le sport. Et qui dit sport aussi, dit pour nous, en valeur de la vie, l'environnement. Puisque lorsqu'on parle en fait de valeurs humaines, que ce soit la solidarité, l'inclusivité, le dépassement de soi, eh bien on les retrouve aussi chez les écologistes. Donc on a voulu, avec Call Me Iconic et avec la création de ce personnage, c'est Jamie 440, lier les valeurs sportives et les valeurs environnementales. Donc on s'est associé à des sportifs qui n'ont pas forcément la parole sur les réseaux sociaux et qui peuvent justement s'adresser aux jeunes générations pour, je dirais, faire des histoires inspirantes, inspirer effectivement cette jeune génération. Donc il y a Mathieu Navillo, qui est avec nous, qui a fondé l'association Une bouteille à la mer.org. Il y a Mathieu Thomas, qui revient des Jeux Olympiques mondiaux du parabinton et qui a gagné une médaille de bronze. Il y a Cafécien Gomis, qui est venu avec nous ramasser des mégots sur les trottoirs de Paris. Il y a François Pervis qui va nous parler de comment il a transformé la ferme de ses parents, un élevage bovin, en bambrouseraie. Voilà, ce sont toutes ces personnalités que l'on met, à qui on donne une voix à travers ces Jamie 440.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un influenceur virtuel qui peut changer l'humanité, Jean-Marc ?
Oui, moi je trouve ça formidable. À la nuance près, on en parlait, c'est que ça ne fasse pas concurrence avec l'humain. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours être très vigilant, mais je sais que vous en êtes très soucieuse et en général les concepteurs de virtual influencers le sont, mais pour un Gen Z par exemple qui sont une cible un peu particulière, un peu privilégiée on va dire, il faudrait être vigilant là-dessus. Par contre, un ambassadeur de cause comme vous le dites pour le sport, je trouve formidable parce qu'effectivement ça incarne une cause, pas forcément par une personne, mais c'est un relais on va dire intermédiaire qui me semble tout à fait intéressant.
Tout à fait, c'est un travail collectif. Oui. Et d'ailleurs, le premier partenaire de C'est Jamie 440, puisque les projets d'influenceurs virtuels sont des projets avec investissement, et le premier effectivement partenaire, j'ai envie d'en faire un clin d'œil, c'est Randstad. Randstad est leader de l'intérim, dans le conseil également, et quand on veut mettre les jeunes en action, eh bien c'est aussi effectivement leur donner une vision sur leur avenir, les métiers qu'ils recrutent, là où on peut avoir une vie professionnelle, les différentes formes de contrats, et là vraiment l'humain est au cœur. Et donc, c'est Jamie 440, donne la parole aux humains. Je suis bavarde.
Ce sera le mot de la fin. L'influence virtuelle à impact positif. Merci beaucoup, Muriel Balayer. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Call Me Iconic. On passe aux chiffres.
Merci
avec Jean-Marc.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Jean-Marc Ménien, directeur général d'AltaViA Shoppermine. Alors, ces dernières années, c'est vrai que les influenceurs virtuels se sont multipliés. Ils sont passés d'environ 9 dans le monde en 2015 à plus de 200 cette année. C'est surtout en Chine que le phénomène prend de l'ampleur.
Oui, et ça fait le lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. 390 millions de Chinois suivent quotidiennement un influenceur virtuel. Alors, vous me direz, 390 millions sur 1,4 milliard, ça ne fait pas beaucoup. Mais il faut quand même s'apercevoir que c'est quand même 380 millions, c'est pratiquement l'audience de Twitter.
Ce sont les prochaines idoles de la génération Z chinoise.
Oui, et ils le suivent au quotidien. C'est-à-dire, ça devient vraiment, on rentre un peu dans l'intimité. Et donc, ils créent une relation avec la marque ou avec une cause, comme l'a dit Muriel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des calls, c'est key opinion leaders, sont soit effectivement proposés aux marques avec l'inconvénient, c'est d'avoir peut-être le même ambassadeur virtuel pour plusieurs marques, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Par contre, les marques, maintenant, commencent à lancer leur propre influenceurs virtuels comme Mark Spencer par exemple qui a lancé Michaela
avec 3 millions d'abonnés au global.
Michaela, c'est une influenceuse, c'est pas celle de comment Mark Spencer, c'est Mina effectivement qui l'ont.
Vous les connaissez par cœur.
Oui tout à fait. Et si vous voulez parler effectivement de la leader toute incontestée toute mondiale, c'est Lila Michaela qui effectivement est une brésilienne et
qui réunit plus de 3 millions.
Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette réalité. Je veux dire que les taches de rousseur sont virtuelles, mais elles sont vraiment, où les clins d'œil, les sourires, ça fait presque un peu peur. On pourrait se poser des questions par rapport à ça, mais ça rend le personnage tellement réel et tellement, on a envie vraiment de rentrer dans son intimité. Et donc, c'est une relation qui, à mon avis, peut être durable pour les marques. Et on peut passer beaucoup plus de discours que si c'était une star quelconque.
Si je vous permets.
Oui.
Lily Michaela, c'est effectivement la première influenceuse virtuelle, on va dire humanoïde. Mmh. Et après, le cimetière des influenceurs virtuels, il est rempli de personnages qui ont voulu singer les humains. Et je pense que le rôle des communicants, on a un rôle dans le monde digital que nous allons construire pour les jeunes générations. Donc faire attention à cette représentation humaine de l'influence virtuelle. Les réseaux sociaux sont faits pour que les jeunes se comparent les uns les autres. Si aujourd'hui on les fait se comparer à des personnages qui sont virtuels, les dangers seront encore plus importants sur la santé mentale et physique de ces jeunes générations.
Merci beaucoup pour votre point, Muriel Balayer. Et merci Jean-Marc d'avoir été avec nous pendant cette émission. Jean-Marc Ménien, directeur général d'AltaViA Shoppermine. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.